pour la lecture de la parole de notre Dieu. Je vous invite à nous lever. Galates chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Jusqu'ici la lecture de la parole du Seigneur. Ô combien nous voulons nous placer à l'écoute de ta parole et te prier, Seigneur, que tu nous donnes de saisir ce matin, une fois de plus et encore plus, de saisir le message central de ta parole, qui est le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de voir combien tout ce qui a pu être fait et écrit avant la venue de Jésus nous donnait de voir et de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Donne-nous de voir combien tout ce qui a été écrit après nous donne de voir également ce qui a été posé en Jésus-Christ, qui fait que ce qui précède qui était incomplet est devenu accompli, complet en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'en voir les perspectives, d'en voir les effets dans ton Église, dans le monde, mais particulièrement dans nos vies ce matin. Que Seigneur, tu sois celui qui nous renouvelle, qui nous éclaire, qui nous transforme et qui nous donne de vivre cette métanoïa, cette transformation de nos pensées qui se doit d'être suivie par l'effet dans nos cœurs et dans nos vies tout entières. Que Seigneur, ce soit là à ta gloire, parce que Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité et nous te prions, comme tu nous as appris à le faire, que nous soyons sanctifiés dans la vérité de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que nos vies sont comme l'herbe qui sèche, qui passe et qui se fane, qui se flétrit. Nous croyons que ta parole, elle demeure éternellement. Alors Seigneur, parle-nous, parce que nous, tes serviteurs, nous voulons t'écouter. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Alors ce matin, je vous propose de commencer en traitant un verset hors contexte. C'est inhabituel de ma part, parce qu'en général, j'aime bien placer les choses dans leur contexte. Et la raison pour laquelle je vous propose de commencer ce matin par un verset hors contexte, c'est tout simplement pour voir à quel point ce verset est en fait fréquemment sorti de son contexte. Et de voir ensemble, je vous propose une piste de réflexion qui nous montre jusqu'où peut aller sortir un texte de son contexte. Évidemment, après, nous reviendrons dans le contexte pour voir ce qu'il a à nous dire ici. Il y a le verset sur lequel je propose de nous arrêter particulièrement ce matin, c'est le verset 28, qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. » J'arrête là. J'arrête là pour le hors contexte, pour la citation hors contexte. J'arrête là parce qu'on peut voir les effets de dire, regardez, la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni juif, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Et en fait, ce texte pris tout seul, à part des autres, à part de son contexte immédiat et global, peut nous donner de vouloir justifier l'égalité sociale sur le plan racial, sur le plan social, sur le plan sexuel et du genre. Racial, puisqu'il n'y a plus ni juif ni grec. Social, puisqu'il n'y a plus ni esclave ni libre. Sexuel, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et cela peut mener à l'argument suivant. En Jésus-Christ, nous sommes tous 100% égaux et il n'y a plus de raison de dire qu'il y a une quelconque différence. Il se dit beaucoup de choses en ce moment, allant précisément dans ce sens. Je veux même prendre un exemple qui peut nous paraître extrême. Je ne sais pas combien nous lisons l'actualité en dehors de la Covid, parce que ça monopolise toute l'information, mais il se passe des choses dans le monde, il se passe un certain nombre de choses dans le monde, et celle dont je vais parler, vous en avez bien sûr entendu quelques effets, ça se passe particulièrement aux États-Unis, ça peut nous paraître extrême, mais ce qui se passe, ce que je vais évoquer ici, qui est très présent aujourd'hui aux États-Unis et très rampant ici en France. Et le point que je veux évoquer, en fait, et ça, ce n'était pas prévu au programme, mais il s'avère que c'est la une du Point de cette semaine. Si vous recevez ce jour cet hebdomadaire, ou si vous le recevrez, vous verrez que le titre nous dit « Les dérives woke de l'Amérique à la France, jusqu'où iront les racialistes ?» Alors, woke, c'est quoi ce woke? Pour la petite histoire, woke, c'est un terme qui vient de wake, pour wake comme awake, c'est-à-dire réveil, réveillé, mais prononcé à la afro-américaine, dans le parler noir américain, qui est très particulier, surtout dans le sud des États-Unis, et donc wake donne woke. Et donc c'est devenu un mouvement très fort qu'on appelle le wokisme. Et voici comment nous pourrions définir, je reprends le point ici, définir le wokisme. Au nom de la lutte contre les discriminations, les wokers, on pourrait dire, le wokisme, veulent imposer une vision de la société fondée sur la race, le genre et les préférences sexuelles, interdisant tout universalisme et toute possibilité de débat. Et le journal Le Point ici, que je n'ai pas encore lu en détail, je l'ai à peine reçu, mais quand j'ai vu le titre, c'est intéressant, mais le journal ici relève à quel point, et il s'avère que j'ai écouté, entre autres, une conférence cette semaine qui traite de la question, montre à quel point le dialogue est très compliqué. Il n'y a pas de place pour parler, il y a juste la place pour dire on doit suivre le mouvement tel qu'il est ici, et puis on le voit, entre autres, dans les affaires qui traitent les États-Unis et des affaires sur lesquelles je reviens dans un très court instant ici. Il s'agit, continue Le Point, de dire une nouvelle forme de lutte des classes, mais cette fois-ci ne touche pas juste l'oppression sociale, mais l'ensemble des oppressions raciales, touchant évidemment les minorités, mais également touchant les minorités, ou si on peut parler ainsi, sexuelles, avec les scandales qu'il y a là, et puis le mouvement LGBT. Il s'agit de lutter contre le dominateur blanc, puissant, en vue de changer le monde, en vue de changer de culture, où il y aurait une totale égalité de race et de genre, etc. C'est un mouvement qui prend donc en ce moment beaucoup d'ampleur aux États-Unis et qui s'engouffre dans deux failles qu'il faut dire. Il faut les relever, ces failles, parce qu'elles sont réelles et ce qui se passe ici s'engouffre dans ces deux failles. La première des failles, c'est une société qui a perdu le sens des choses. Et il est triste de dire que c'est vrai aussi dans le monde religieux. Et la deuxième faille, c'est une société où, en effet, il règne des injustices profondes et des scandales qui sortent les uns derrière les autres, dont l'actualité nous en parle beaucoup et dont beaucoup de choses ne sont pas encore dites. Une société donc où il règne des injustices profondes et scandaleuses, y compris dans le monde religieux. Il y a là donc deux failles majeures qui font que le mouvement woke y rentre en force. Et pour terminer avec cet exemple, je précise que ce mouvement appelle à des choses qui ressemblent beaucoup à des mouvements de réveil, mais avec une toute autre dynamique. Et d'ailleurs, woke, certains conférenciers, vous savez qu'aux États-Unis, quand on parle du grand réveil, on parle du Great Awakening, et là, ils sont en train de parler du Great Awakening, pour montrer à quel point il y a une dynamique similaire qui est en train d'entrer avec puissance dans la société, et qui fait entre autres appel à la repentance. Il y a la repentance, mais des oppresseurs qui sont généralement des hommes, et qui sont généralement des hommes blancs, et qui sont donc d'emblée racistes, dépravés et intolérants. Il y a également une très forte mobilisation, une grande propagande, avec régulièrement un usage de la force, quitte, même si le mot n'est pas employé, à utiliser des idées révolutionnaires pour renverser les choses en place. Et c'est un monde, c'est un mouvement qui croit en un monde meilleur pour après, où régnera l'égalité dans le respect des minorités, particulièrement les minorités des races et des choix du genre. Et j'en arrête ici pour parler de ce qui se passe ici. Si vous voulez lire le point, si vous voulez vous informer, je pense qu'on n'aura aucun mal à avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe ici. Mais évidemment, est-ce de cela dont Paul parle dans la lettre aux Galates quand il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ». Vous doutez de la réponse que je vais vous donner ce matin. Évidemment, ce n'est pas le propos de Paul ici, ou alors on a affaire à un autre Paul qui est dans un texte parallèle et apocryphe, mais ici, le Paul que nous connaissons, le Paul des Écritures Saintes, évidemment, ne parle pas du tout du fait que les différences s'effacent. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de juifs et de grecs. En fait, il tient tout à fait compte d'une réalité du monde juif et du monde grec, sachant qu'ils ont chacun leur histoire, qu'ils ont chacun leur richesse, qu'ils ont chacun leur identité. Et parenthèse ici, lorsqu'on frette cette épître aux Galates, il faut bien rappeler que lorsqu'il pointe du doigt ce qui se fait, la tentative judaïsante, il ne faut pas confondre dans les propos de Paul la tentative judaïsante du peuple juif. Paul a un immense respect pour l'histoire du peuple d'Israël, pour l'histoire du peuple juif. Et d'ailleurs, Paul en fait même une stratégie dans l'implantation d'Église. Combien de fois va-t-il dire du juif premièrement, puis du grec, façon de dire, il allait dans les synagogues pour y prêcher le Christ, de façon à ce qu'il y ait une vraie continuité et que le peuple d'Israël de l'époque des évangiles puisse réaliser que le Messie attendu est bel et bien venu en la personne de Jésus-Christ. Donc Paul ne voulait pas du tout là effacer les différences, ne voulait pas faire en sorte qu'il n'y ait plus rien, qu'on terrasse tout au même niveau. Il y avait bien une différence ici. De même, on voit dans d'autres écrits que Paul encourage les serviteurs, les esclaves, à respecter leurs maîtres, et évidemment les maîtres à respecter leurs serviteurs, sans entrer dans un mouvement de révolte et de cassure sociale. Mais dans sa vision des choses, dans sa prédication, ce que Paul évoque, c'est une réalité nouvelle, qui est celle que serviteurs et maîtres, comme juifs et grecs d'ailleurs, peuvent se retrouver dans une même église, peuvent se retrouver assis côte à côte, peuvent se dire être un, unis en Jésus-Christ, louant Dieu côte à côte et avancer ensemble. Et bien sûr, de même concernant les hommes et les femmes, ils sont bien évidemment différents, créés comme tels, et ils jouent un rôle complémentaire l'un vis-à-vis de l'autre. Donc Paul n'est pas en train d'effacer toute chose ici. L'argument de Paul ici n'est pas celui comme quoi l'Église est un monde sans différence de race, sans différence de statut social ou sans différence de genre. L'Église est par contre un monde où les races, les statuts sociaux et les genres se côtoient dans une harmonie rétablie. Et c'est là qu'il est bon de revenir au contexte. Revenir au contexte parce que depuis le début de l'Épître, Paul, n'est-ce pas, argumente le fait que les chrétiennes et les chrétiens de Galates ont sombré dans ce que l'on appelle le légalisme, ont remplacé l'évangile par le judaïsme, et une des manifestations, on l'a évoqué, mais une des manifestations est dans un retour à des pratiques religieuses, et entre autres dans le retour à la pratique de la circoncision. On l'a évoqué, et j'y reviens un instant, parce que ce qui est grave dans ce qui se passe ici, c'est que cette vision du monde, cette vision où on remet une pratique qui avait lieu dans l'Ancien Testament, et qui est la pratique de la circoncision, eh bien, nous remarquons, par cette épître et par d'autres contextes du temps, nous remarquons que cette pratique, en fait, est imposée. Elle est imposée, la circoncision devenait imposée aux Grecs. C'est-à-dire qu'on demandait à des Grecs de devenir juifs dans l'histoire. Et donc, Paul, ici, est en train de dénoncer ici, dans ce contexte. Parce que cela revient à dire, dans le contexte immédiat ici, cela revient à dire, on pourrait le dire ainsi, nous qui sommes d'origine juive, nous les judaïsants, nous sommes mieux. Nous sommes supérieurs. Nous sommes les bons. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous avons un héritage que eux n'ont pas, donc eux doivent devenir comme nous. Eux doivent rentrer dans la dynamique qui est la nôtre. Et là, il est intéressant de se souvenir une parabole que Jésus a donnée. On la connaît tous, mais je la relis. Jésus dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Paul reprend les chrétiennes et les chrétiens de Galates en rappelant que lui, Paul, qui connaît bien cette vision du monde puisqu'il en était, lui a rencontré le Christ ressuscité. Lui a été appelé à joindre le collège des apôtres. Lui a été pleinement reconnu par ce collège, etc. Il les reprend aussi pour les ramener aux valeurs de l'Évangile, et entre autres, en leur montrant qu'ils n'ont pas compris le sens de la Pâque, on l'avait vu il y a deux semaines en arrière. Il les reprend en revenant sur les Écritures, en leur montrant par ces Écritures que la promesse est pour tous, qu'elle s'obtient par la foi, et que l'enjeu ici n'est pas juste de lire sa Bible, mais de voir dans la Bible en quoi Christ y pointe, en quoi il est présent dans toute la Bible. Il les reprend en démontrant que la foi est première et que la loi vient dans un contexte précis. Et en fait, l'évangile dont Paul parle et dont la Bible parle ne nous dit pas qu'au commencement, Dieu a créé toute chose bonne. L'évangile ne nous dit-il pas que le choix que l'homme a fait, un choix d'autonomie, un choix pour l'homme, nous rappelle l'étymologie ici, de vouloir être sa propre loi, autonomos, d'être sa propre loi, et combien ce choix de l'homme a eu des conséquences désastreuses, parmi lesquelles nous trouvons un désir de dominer, un désir d'exploiter, et ainsi, comme effet de cette chute, combien on voit les dominations raciales, sociales ou sexuelles. Mais l'Évangile est la réponse et la solution que Dieu donne, et ce, dès le jardin d'Éden. N'est-il pas intéressant de relever que Dieu couvre l'homme d'un habit de peau pour que la misère dans laquelle il s'est mis, la pauvreté, la nudité même, cette nudité qui l'expose, qui le rend visible, qui le donne de réagir pour se protéger et de réagir soit en dominant l'autre, soit en se faisant dominer par l'autre. Eh bien, l'Évangile, c'est la réponse de Dieu qui couvre l'homme, qui le couvre pour qu'il puisse retrouver, souvenons-nous dans le jardin d'Éden, retrouver une communion rompue avec son Créateur et reprendre, pas sans mal, mais reprendre le cours des choses, mais avec humilité et avec renouveau. Eh bien, pourquoi j'évoque cela? Parce que je crois que c'est l'argument de Paul ici même, dans le contexte immédiat. En effet, Paul dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a là, donc, ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » L'évangile dont Paul parle ici, juste dans le verset qui précède, juste dans la phrase qui précède, eh bien, l'évangile dont parle Christ, c'est Christ en qui nous sommes baptisés, c'est-à-dire Christ qui nous couvre de l'habit de sa propre peau. L'image de l'évangile donnée ici, c'est cet animal qui a dû faire verser son sang pour nous couvrir de sa peau, et ainsi nous sommes baptisés en Christ, vous qui avez revêtu Christ. Nous voyons Christ nous revêtir pour que nous puissions retrouver une communion perdue avec Dieu et pour pouvoir ainsi être adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi la différence et les problèmes allant jusqu'à ceux que nous évoquons ce matin, ces différences et ces problèmes rentrent dans un processus de réconciliation par le baptême en Christ, tel qu'il est dit ici, une réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Une réconciliation avec nous-mêmes, et pour rester dans les exemples ici, est-ce que lorsque je me regarde dans le miroir sans Christ, est-ce que je vois en moi un être qui a tendance à être dominant, Ou est-ce qu'au contraire, je vois en moi un être qui souffre d'être dominé, d'être exploité, d'être abusé? Eh bien, en Christ, nous pouvons être réconciliés pour voir combien, si j'ai une tendance dominante, eh bien, Christ va me donner de comprendre mon besoin de m'abaisser et de m'humilier. Si je vois que je suis dominé et humilié, je vais être couvert par Christ qui va m'élever et qui va me donner de retrouver une dignité à sa propre table, dans son propre royaume, dans sa propre présence. Et ainsi, réconciliés avec Dieu, réconciliés avec nous-mêmes par l'œuvre de l'Évangile, nous pouvons vivre une réconciliation avec mon frère, ma sœur, avec qui maintenant nous sommes un. Pour le dire autrement, dans le propos de Paul ici, la diversité reste pleine et entière. Mais l'unité, par le baptême en Jésus-Christ, dépasse une diversité blessante en une unité puissante. Les Galates, dans leur déviation de l'Évangile en légalisme, n'ont pas compris cela non plus. Avec la restauration de la circoncision, non seulement il manque la dynamique de l'Évangile qui remplace cela avec le baptême, on l'avait évoqué, la circoncision étant un signe montrant que le sang doit couler, le baptême montrant, et donc qui annonçait la mort du Christ en particulier, le baptême dépasse cela, parce que Christ est mort, il est ressuscité. Donc le nouveau signe fait qu'on avance beaucoup plus loin dans la dynamique de l'Évangile et dans la révélation de l'Évangile ici. Mais en revenant à la circoncision, il manque la dynamique de l'Évangile, mais en plus, ils appuient l'idée du juif seulement, la circoncision étant la marque posée sur le peuple d'Israël, de l'homme seulement, c'était les hommes qui portaient ce signe sur eux, et de maître seulement, puisque les juifs, souvenez-vous l'argument quand Jésus dit qu'ils sont esclaves, il dit nous sommes esclaves de personne, nous sommes tous libres ici, personne n'est esclave de rien, où il rappellera qu'en fait on est esclaves de tout ce qui nous domine, à savoir le péché. Au lieu de l'unité en Christ, et les uns avec les autres dans leur diversité raciale, sociale et sexuelle, ils prônent l'uniformité. Et ils croient que l'application de la loi leur donnera un monde meilleur parce qu'un monde uniformé, un peu comme les woke, un peu comme beaucoup dans ce monde. À ce sujet, j'avais lu il y a quelques années en arrière et incroyable, j'ai retrouvé la citation parce que je ne suis pas toujours fort à cela, mais une citation de Abraham, alors c'est Kuiper ou Kuiper, Kuiper, hein. J'ai toujours du mal à prononcer comme il faut. Je me tourne vers... Il y en a qui connaissent, là. Mais voici ce qu'il dit, plusieurs extraits de citations venant de lui. « Le péché, dit-il, a immédiatement rendu l'unité impossible chez l'homme. » Plus loin, il dit, « Il y a une distinction fondamentale entre unité et uniformité. Alors que Dieu désire l'unité, les hommes aspirent à l'uniformité. » Dieu désire une diversité florissante d'hommes, de cultures et de communautés unies en lui. L'unité de Dieu produit la diversité et la vie. L'uniformité de l'humanité produit l'homogénéité et la mort. Les Galates cherchent par la loi un monde uniforme. L'Évangile apporte l'unité. Et c'est là le sens dans ce verset. Un des sens, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour du baptême, mais c'est là le sens qui est donné par Paul au baptême ici. Ce qui montre que les Galates, n'ayant déjà pas compris beaucoup de choses, n'ont pas compris non plus leur propre baptême. Mais nous, ce matin, quand nous disons il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme, parce qu'en Christ et son baptême, ils sont un. Avons-nous compris ce baptême? Sommes-nous un? Petit test. Petit test que nous pouvons nous faire les uns les autres. Si nous aspirons ce matin à de l'uniformité dans quoi que ce soit dans nos vies, cela veut probablement dire que je dois sérieusement regarder à Christ et à son Évangile. Sommes-nous prêts à voir que nous pouvons être un en Christ, avec une diversité tant qu'elle repose évidemment sur l'Évangile. Mais sommes-nous prêts à voir en Christ la richesse, la beauté, et comme le dit Kuiper, le don de florissant de diversité et d'unité, où nous voulons-nous que tout le monde pense la même chose? fonctionne de la même façon, soit dans un même moule. Le monde autour de nous est très influencé par un désir d'uniformité. La France est particulièrement influencée par cela. Rappelons-nous, quelques siècles en arrière, qu'est-ce qui a été la raison des terribles persécutions contre le monde protestant, si ce n'était l'uniformité qu'il devait y avoir dans le monde religieux. Il fallait une seule foi et un seul roi. Même la Révolution française a montré combien il y avait une seule forme possible, il n'y avait pas de place pour autre chose. Et quand on voit même une grosse partie de notre système éducatif, je ne vais pas trop rentrer là-dessus, mais j'ai été absolument frappé il y a des années en arrière. Je me souviens entre autres une fois de parler avec un psychologue. Et un psychologue qui avait un peu voyagé et qui ramenait une école nouvelle, une école qui existait dans le monde anglo-saxon. Je lui dis, mais c'est terrible ici, il n'y a aucune autre pensée que celle qui est donnée par l'État français. Et je suis, moi, psychologue de métier, je suis mis de côté par mes pairs. Et combien notre pensée est façonné par l'uniformité. Il ne faut pas se leurrer. Si c'est tout autour de nous, il y a une forte probabilité que ça nous influence. Sauf si l'Évangile, si le baptême du Christ fait la différence en nous et nous donne de voir que l'enjeu n'est pas l'uniformité, mais bel et bien l'unité avec notre Seigneur, qui nous rétablit dans une unité avec nous-mêmes et qui permet l'unité les uns avec les autres. Alors peut-être ce matin devons-nous particulièrement regarder à l'Évangile de Jésus-Christ et particulièrement être attentifs à ne pas retomber dans une vision comme celle des Galates ou dans une vision comme il peut y en avoir ici. Juste pour une parenthèse, les conférences que j'ai écoutées cette semaine et qui parlaient de ces woke, j'étais très déçu par la conclusion de ces conférences. Ah, c'était d'une excellence totale sur toute l'observation de ce qui se passait, mais à la conclusion, il y avait un appel à un engagement politique. Et là, j'ai dit, c'est pas l'Évangile. Qu'on soit clair, la réponse n'est pas politique, même si ça passe par la politique. La réponse n'est pas religieuse, même si ça passe par les religions. La réponse n'est pas sociale et éducative, même si ça passe par le social et l'éducation. La réponse est celle annoncée dans le jardin d'Éden et accomplie en Jésus-Christ. C'est-à-dire pas l'autonomie, mais d'être couvert par le sang de Christ. D'être transformé par la puissance de l'Évangile et de voir le sens ainsi que peut avoir notre baptême. Alors pour conclure, je vous invite à relire, repenser ce que Jésus donne. Et je vais sûrement y revenir dans quelques temps. J'avais évoqué ça, je crois, au tout début de la chapelle de Nesle, Sermon sur la montagne. Comme beaucoup d'entre nous n'étaient pas là à ce moment-là, je crois que je vais ressortir mes disquettes ici et me les réapproprier. J'ai besoin moi-même de les revoir ici. Mais je suis absolument convaincu que le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5, est l'enseignement de base que Jésus donne pour former ses disciples. Et nous devons y prêter une vive attention. Et précisément dans le sujet que nous évoquons ce matin, relisons-les. Heureux les pauvres en esprit, heureux donc bénis, heureux, complets sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui prennent position à être précisément à leur juste place. Le synonyme de ça, c'est l'humilité. Heureux les humbles, car ils verront le royaume des cieux. C'est-à-dire heureux ceux qui voient Dieu pour qui il est et qui se voient eux pour qui ils sont. Et d'une façon globale, on se voit beaucoup plus grand que ce que nous sommes et nous mettons Dieu beaucoup plus petit que ce qu'il est. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, j'ai déjà évoqué cela, mais je reviens dessus, c'est-à-dire précisément heureux ceux qui font deuil, c'est heureux ceux qui lâchent. Heureux ceux qui laissent partir les choses qu'ils retiennent et qui font qu'on a un problème avec quelqu'un, on a un problème avec quelque chose. Jacques reprendra exactement le même terme pour dire combien nous devons faire deuil sur notre péché. Or, il s'avère que lorsqu'on se fait pauvre en esprit, on se met à voir des choses qui ont besoin d'être vues. Quand on les voit, on doit les laisser aller. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. L'enjeu de l'Évangile n'est pas le moyen de la force. L'enjeu de l'Évangile n'est pas la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit dans l'action des choses pour changer le monde. Ça commence par un changement de l'intérieur. Ça commence par lâcher les choses en trop, qui produit la douceur et qui fait qu'on hérite la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ah, ce terme-là peut être là aussi mis très hors contexte. Premièrement, il ne dit pas heureux ceux qui sont en train de faire en sorte que la justice soit là, mais heureux ceux qui en ont faim, ceux qui en ont soif. Et le mot justice ici, mettons-le à sa juste place. Souvenez-vous, je l'ai évoqué, c'est un rappel, ce que Jean-Baptiste dit, plutôt ce que Jésus dit à Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Jean qui lui dit, mais moi, je n'ai aucune raison de te baptiser. Toi, tu n'as pas besoin de repentance. Et Jésus lui répond, il faut que toute justice soit accomplie. Il est clair que la faim et la soif de justice ici, c'est précisément ce que nous parlons, ce dont nous parlons ce matin. C'est la justice de Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a pris sur lui nos fautes et qui veut nous restaurer de façon à ce qu'il y ait un équilibre restauré dans notre communion avec Dieu, notre communion avec nous-mêmes, notre communion avec les autres ici. Oh, heureux sont ceux qu'on auront faim et soif, parce que la promesse ici, c'est qu'ils en seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire heureux ceux qui ne vont pas chercher à rendre, heureux ceux qui ne vont pas rendre à la personne en face de lui ce qu'elle mériterait de recevoir, parce qu'elle a causé du tort, parce qu'elle a fait du mal. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde, c'est-à-dire ils grandiront dans la compréhension de ce que cela veut dire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, l'idée ici, c'est ceux qui n'ont pas un cœur double, ceux qui ne mènent pas une double vie devant leur Seigneur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez la différence de programme entre le walking et l'Évangile. La différence de programme qui fait que c'est un travail qui se fait d'abord en moi, de l'intérieur, qui se fait dans des églises tout d'abord, et qui après peut rayonner autour de nous ici, et peut d'autant rayonner que Jésus dit, suite à cela, vous êtes le sel de la terre. C'est dans ce contexte que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ce matin, que veut dire? Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni maître. Il n'y a plus ni homme ni femme. La compréhension passe par le sens du baptême. C'est couvert par lui que nous devenons un dans la diversité que nous pouvons représenter. L'Église de Jésus-Christ est appelée ainsi à briller dans un monde qui va tendre, c'est quasi sûr maintenant, qui va tendre vers une violence où il n'y aura pas de dialogue possible, il n'y aura pas de possibilité d'échanger. La seule chose qui peut faire la différence, mes frères et sœurs, c'est nous, par le vécu de l'Évangile. C'est nous avec nos voisins, avec nos familles, avec nos collègues. C'est nous ici à la chapelle de Nesle, dans ce quartier de Paris et dans la ville de Paris. Si nous devons traverser, ce que je ne souhaite pas, mais si nous devons traverser une zone de grande turbulence, restons axés sur notre besoin d'être un avec Christ en son baptême. Et à voir combien la diversité qui peut nous représenter peut être une magnifique source d'unité. Puisse l'Évangile ainsi briller au milieu de nous et autour de nous. Amen. J'invite à prier. Après la prière, on va chanter un dernier cantique. J'invite à particulièrement regarder le texte de ce cantique. Et je vous invite en le chantant à le prier avant de recevoir la bénédiction. Je prie. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais tellement à quel point notre désir autonomie ne produit que des cassures, voire de la violence. Seigneur, nous le voyons dès les lendemains du jardin d'Éden. Nous voyons des frères s'entretuer. Nous voyons des dominations d'hommes sur les femmes, de femmes sur les hommes, dominations entre peuples, dominations entre ceux qui ont un savoir-faire et les autres. Nous voyons combien ce monde, très vite, a créé des conflits terribles, de l'oppression, des douleurs. Nous voyons combien le monde souffre autour de nous. La terre souffre les douleurs de l'enfantement, tellement le péché est là, et tellement les cassures sont là, et tellement on veut dominer, même encore en ce moment en période de crise sanitaire, comment on voit les uns vouloir dominer sur les autres pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de contrôle. Et Seigneur, quand on voit certains mouvements qui ont traversé la France dans l'histoire, qui la traversent encore aujourd'hui, et quand on voit même les mouvements comme l'actualité nous en parle, entre autres aux États-Unis. Combien, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Et te dire, Seigneur, épargne-nous de tomber dans la tentation de faire les mêmes choses en voulant proclamer du bien. Seigneur, l'évangile dont tu nous parles est un évangile qui commence par nous. Tu veux commencer par nous. Et peut-être ce matin, j'ai des pensées, parce que ce serait normal, normal pas dans le sens de normatif, mais normal dans le sens d'héritage. Il est normal que j'ai envie de voir un monde uniforme autour de moi, un monde qui pense comme moi, un monde qui veut faire les choses comme moi. Peut-être même sommes-nous une église qui voulons rendre uniforme la théologie, l'ecclésiologie, les choses que nous faisons, en disant tout le monde devrait faire comme cela. Combien de fois, Seigneur, voulons-nous prôner l'uniformité dans nos familles, dans nos voisinages? Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas voir que tu nous donnes tout d'abord de vivre une vraie, profonde réconciliation avec toi, couvert par le baptême du Christ. Que tu nous donnes, dans cette réconciliation, de nous voir pour qui nous sommes et de cheminer comme dans ce sermon sur la montagne, et de nous laisser travailler de l'intérieur. Et on en a tellement besoin, Seigneur, et alors même que peut-être on l'a fait il y a un an, 10 ans, on a encore besoin de le refaire aujourd'hui. Et Seigneur, donne-nous de voir cette unité dans la diversité entre nous. De voir combien en toi, en effet, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni patron ni employé. Il n'y a plus ni homme ni femme. Certes, il y a encore des hommes et des femmes, des patrons, des employés, et différentes ethnies représentées. Et là est la beauté de ce que tu fais en nous, au nom de l'Évangile. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aller beaucoup plus loin avec cela. Accorde-nous la grâce de le vivre d'une façon telle que le monde autour de nous puisse regarder ce que tu fais ici, à la Chapelle de Nesle, et puisse venir avec soif, comme ce sel qui donne soif, venir nous voir et dire, qu'est-ce qui se passe à la Chapelle de Nesle? Et nous te prions ça pour l'Église dans Paris, l'Église en France et dans le monde entier. Ô Seigneur, puisse ton Église se ressaisir et réaliser à quel point elle a besoin d'être beaucoup plus préoccupée par son unité avec toi et par son unité les uns avec les autres. Pas une unité à bas prix, mais une unité reposant sur le prix le plus cher, celui de ton Fils Jésus-Christ. Oh, donne-nous, Seigneur, d'aller de l'avant et de progresser. Et puis, Seigneur, si ce matin, je réalise, et en fait, on devrait tous réaliser notre besoin que tu travailles de nouveau dans nos cœurs, eh bien, Seigneur, donne-nous de venir vers toi parce qu'on sait que tu nous accueilles pour cheminer. Donne-nous de ne pas croire qu'on est peut-être allé trop loin dans nos vies. Donne-nous de ne pas croire que c'est trop tard, que j'en ai trop fait, que c'est trop compliqué. Non, donne-moi, Seigneur, de saisir ce que tu as fait pour moi. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Et tu nous couvres par ton baptême. Que, Seigneur, soit l'occasion pour nous de faire un pas et nous voulons venir vers toi par la foi. Te demander de le faire en nous et d'aller de l'avant. Et pour cela, Seigneur, disons toute notre reconnaissance et te le prions dans le nom de Jésus-Christ.